Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente Lorraine Goumeau. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce direct sur les réseaux sociaux de BFM Business. C'est la libre antenne, vous avez des questions, on a des gens pour y répondre ce midi. Le programme, il est très simple, vous êtes en direct sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook et aussi bien sûr sur les applications BFM Business. Et salut à vous qui nous écoutez aussi en podcast. D'ici 15 minutes, on va répondre à vos questions. La thématique du jour, c'est vie privée, vie perso, comment respecter le droit à la déconnexion quand on est en télétravail, mais aussi quand on est en vacances. Notre avocat Marie Contant viendra répondre à vos différentes questions. Ça, c'est vers 13h15. D'ici là, on sera évidemment avec deux recruteurs, puisque c'est l'usage. Vous recrutez, et bien ça se passe sur notre plateau. Aujourd'hui, on sera avec Val Thorens, vous allez voir, restez avec nous. Et on sera aussi avec un professionnel de l'accompagnement de l'évolution professionnelle. On parlera du CPF, on parlera des bilans de compétences et on parlera de comment ça recrute dans ces deux secteurs. Vous aussi, venez pitcher votre boîte et chercher des candidats, des candidates. Et si vous êtes candidat, candidate et que vous nous suivez en direct, eh bien, écrivez-nous si vous avez des questions pour les deux recruteurs du jour. Vous pouvez nous joindre directement dans le thread LinkedIn, dans le thread YouTube, entre autres, mais aussi, comme toujours, à toute heure du jour et de la nuit, sur avecvous@bfmbusiness.fr. Mais d'abord, on recrute. Le premier recruteur, c'est Vincent Lalanne. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vincent, vous êtes directeur de l'Office du tourisme de Val Thorens. Alors, faut-il présenter, évidemment, cette station iconique de notre pays? Avec vous, on va parler de 5000 saisonniers. 5000 saisonnières, c'est la force de travail dont vous avez besoin pour faire tourner Val Thorens. Mais vous êtes aussi le porte-parole plus largement de la vallée des belles villes. Avec vous, on va aussi parler notamment des menhirs pour ceux qui connaissent cette belle partie de notre pays. Vous, c'est 6 mois de saison de ski. 168 jours où le ski dicte globalement, le ski pardon, et les sports d'hiver dictent votre économie. Parlez-nous plus largement de Val Thorens et de l'incubateur finalement de services de touristes que représente l'Office du tourisme Val Thorens.
Alors Val Thorens, il faut bien expliquer que c'est d'abord la plus haute station d'Europe. Donc on est à 2300 mètres d'altitude et donc de ce fait, on a aussi également la plus longue saison d'Europe, une saison d'hiver qui dure sur 6 mois, qui va de la fin du mois de novembre à la fin de la première semaine de mai. Ce qui fait qu'on a une vraie attractivité en termes d'emploi saisonnier. Il faut le signaler puisque aujourd'hui les règles ayant un petit peu changé, ça a quand même considérablement modifié. On a une attractivité internationale énorme, c'est-à-dire qu'on a également d'ailleurs des saisonniers qui sont des saisonniers qui ne sont pas français. On doit avoir peut-être 10 de nationalités différentes hein, qui travaillent sur Val Thorens pour plus de 45 nationalités différentes qui fréquentent la station. Donc en moyenne, on a à peu près 70% d'étrangers en visiteurs. Voilà.
Vous le dites, 2300 mètres d'altitude. Aujourd'hui, janvier 2023, ça vous protège, entre guillemets, des phénomènes liés au dérèglement climatique?
Alors, comme tout le monde, on fait très attention à cette problématique, mais effectivement, étant à 2300 mètres d'altitude et 90% du domaine est au-dessus de 2000 mètres d'altitude, on est moins impacté que les autres. On a fait une saison tout à fait normale cette année. On a décalé d'une semaine simplement l'ouverture, mais c'était plus pour des raisons techniques. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on a des vraies saisons, des saisons complètes qui font effectivement que l'ensemble du continent européen du ski vient dans notre station, voire même de l'international.
10 nationalités, ça, c'est le chiffre des gens qui travaillent chez vous. Alors, vous allez nous donner, Vincent, un aperçu des postes qui sont à pourvoir. Alors là, vous êtes quand même un peu pourvu, on espère, parce que la saison démarre. Mais est-ce que vous avez encore des besoins de saisonniers, de saisonnières? Et quels sont les postes compliqués à remplir, à trouver pour cette année?
Alors, les postes les plus compliqués qu'on a eu à remplir, c'est toujours des postes de manager, des postes de manager d'hôtel, de manager dans des agences immobilières, des postes de technicien. Là, par contre, on est beaucoup mieux pourvu parce qu'on est très connu là-dessus pour être très innovant. Donc, beaucoup de jeunes diplômés ou autres veulent venir, des techniciens de remontée mécanique, d'entretien de matériel ou autre. Mais on a eu un petit peu de problème, effectivement, comme tout le monde, pour recruter au début. Et j'allais dire, la saison avançant, maintenant, on est quasiment pourvu. Mais il y a toujours, en fait, sur 5000 personnes, vous avez toujours des gens qui vont soit partir pour des raisons personnelles ou des raisons professionnelles. Et donc, on a quand même toujours des postes à pourvoir, mais essentiellement saisonniers sur l'hiver.
Comment on adresse justement ce problème de turnover possible? Est-ce que vous avez l'habitude, c'est dans les usages, évidemment, de votre métier, notamment à l'Office du tourisme, ou est-ce que vous sentez qu'entre la grande démission, la grande rotation, le changement de génération et de mentalité, c'est plus compliqué de faire rester les saisonniers du début jusqu'à la fin de la période?
Alors, avant, on recrutait avec des profils très particuliers, avec énormément de cases à cocher. Maintenant, on essaye surtout de séduire les gens et de travailler plutôt sur le savoir-être, puisque finalement, la chose la plus importante, c'est l'accueil que l'on va donner aux clients, en plus de la compétence, on va dire, de la compétence technique, bien évidemment, ou de la compétence en langue ou dans un domaine très particulier. Mais j'allais dire, on est dans des domaines du tourisme et c'est avant tout de l'accueil et c'est avant tout de l'empathie vis-à-vis des clients qui est le plus important. Et c'est de garantir aux gens peut-être une belle vie pour que souvent les saisonniers, on les avait un petit peu oubliés, mais il faut également et aussi qu'ils aient une belle vie. Et donc la vie à Val Thorens, elle est assez agréable, elle est assez conviviale. C'est un espèce de petit village gaulois où tout le monde se connaît et ça se sait. Donc le bouche à oreille étant le meilleur des vecteurs, et donc des saisonniers contents vont parler à d'autres saisonniers ou des conjoints ou des personnes qui vont venir les suivre. Et effectivement, on a aujourd'hui une bonne réputation. D'ailleurs, on loge, et loger les personnes, c'est la chose la plus importante également.
Ça, c'est bon pour votre marque employeur. Vous garantissez le logement et donc que l'intégralité du salaire de saisonnier ne passe pas dans, évidemment, l'accommodation.
Oui, le logement, j'allais dire, depuis le début, comme Val Thorens est assez haut en altitude, à 2300 mètres, il fallait qu'on garde des saisonniers sur place pour qu'ils travaillent, qu'ils aient pas un long moment sur le terrain en transport. Donc, à part des employés de remontée mécanique qui sont véhiculés par l'employeur, qui va les chercher et qui les ramène en bus, 80% de nos saisonniers sont logés sur place, et ça, c'est important. La chose sur laquelle on insiste beaucoup, et on a carrément une association des saisonniers, bien évidemment, en fait, un accompagnement en fait de tous ces gens pour leur expliquer effectivement que il faut pas éviter de dépenser tout son argent et on est là aussi pour gagner de l'argent et économiser pour faire des saisons d'été ou pour continuer à vivre tout le reste de l'année.
Serveur, réceptionniste, cuisinier, barman, agent d'entretien, et Martin sur LinkedIn me demande une précision. On a affiché une infographie avec marqué skiman, ski woman. Qu'est-ce que c'est un skiman, une ski woman?
Alors un skiman ou une ski woman, c'est la personne qui est en fait qui vous accueille dans un magasin de sport d'hiver et qui aide à vous régler et à vous préparer, à vous donner votre matériel de location et vous le régler au mieux pour que vous passiez un bon moment de ski.
Les gens essentiels pour éviter de se faire les croisés dès le jour 1 parce qu'on est mal équipé. Alors très sérieusement, je vous renvoie sur le site qui s'affiche à l'écran, c'est celui emploi.lesbellevilles.fr. Les Belleville, c'est le nom de la vallée qui regroupe Val Thorens, Les Ménuires et Saint-Martin de Belleville. Oui. Vous allez retrouver l'ensemble des postes à pourvoir, peut-être pas pour cette année, mais peut-être aussi, vous avez entendu Vincent, qui peut avoir des besoins à très court terme. Et puis voilà, pour vous projeter sur la saison prochaine, on a fait le portrait de Val Thorens.
Et la saison d'été.
Et la saison d'été, c'est vrai. Vous reviendrez nous en parler quand la neige aura fondu, si ça vous dit, Vincent. On va accueillir notre deuxième recruteur. Vous restez avec nous, Vincent, parce qu'on aura d'autres questions à vous poser quand notre deuxième recruteur, Émeric, nous aura rejoint. En attendant, le temps qu'il arrive, je vous donne un chiffre. C'est 77 368. C'est le nombre de postes postes qui ont été pourvus, ou en tout cas promus, on va dire, sur notre antenne depuis début du mois de septembre, vous aussi, vous recrutez, eh bien, vous venez pitcher votre boîte et chercher des candidats. Vous êtes candidat, vous avez des questions, peut-être pour Vincent, que vous venez d'entendre, directeur de l'Office du Tourisme, ou pour Aymeric Le Breton qui nous rejoint, eh bien, vous nous écrivez en direct, soit sur l'adresse avec vous, @bfmbusiness.fr, ou bien en direct sur le thread LinkedIn, par exemple. Je vois que vous êtes assez nombreux à nous suivre ce midi. N'hésitez pas, je leur pose la question. Vous cherchez peut-être à changer de job, à changer de secteur, ou faire un bilan de compétences, eh bien, c'est peut-être Orientaction que vous allez contacter. Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Aymeric Le Breton, vous êtes le cofondateur et le dirigeant d'Orientation. Vous êtes avec nous pour recruter ce midi. Je vais vous laisser pitcher votre boîte. Le mot-clé, c'est bilan de compétences. On vous écoute une minute, pitchez-nous votre société.
Orientation, en fait, c'est un acteur majeur de l'accompagnement des évolutions professionnelles. Donc nous, on accompagne en fait toutes les personnes qui veulent changer de métier, qui veulent évoluer, qui se posent des questions, voire créer leur propre entreprise. Et notre credo, en fait, c'est d'aider les gens à trouver un métier qui a du sens, qui va être épanouissant. Donc certes, l'idée, c'est de les amener vers quelque chose qui soit réaliste, mais surtout qui les épanouisse dans leur vie, à la fois professionnelle, mais aussi personnelle. Parce qu'un projet, c'est un ensemble.
Bon, vous avez du boulot, hein. Votre entreprise, elle date de 2008, vous êtes une grosse trentaine, vous, votre équipe à vous de salariés, et puis vous travaillez avec 800 consultants, consultantes, on imagine un peu partout sur le territoire. Vous êtes avec nous avant toute chose parce que vous recrutez près de 200 personnes. Aymeric, qu'est-ce qui explique un tel volume? 200, c'est énorme. Est-ce que vous bénéficiez des envies de changement des Français, des travailleurs et des travailleuses français?
Alors, effectivement, on bénéficie des envies de changement, mais c'est aussi parce qu'on souhaite se positionner sur l'ensemble des villes du territoire, y compris des petites villes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment être un réseau de proximité. Donc, on peut être dans des villes qui font 2, 3 000, 4 000 habitants et avoir une personne qui va pouvoir accompagner, justement, répondre à des questions sur les évolutions professionnelles, sur la carrière, au plus près de chez soi. Donc, c'est pour ça aussi qu'on recrute beaucoup, parce qu'on recrute vraiment au plus près des gens.
Vous recherchez très concrètement des typologies de postes que je vais vous laisser lister. Des consultants, des consultantes, avec quelles spécialités?
Alors, sur le bilan de compétences, bien sûr, ça c'est là où on est leader, donc pour accompagner les évolutions professionnelles, mais aussi sur la création d'entreprise, hein, accompagner des créateurs, des créatrices d'entreprise. Également sur la validation des acquis et de l'expérience. Il y a une réforme qui est en cours et il va y avoir beaucoup de besoins à satisfaire sur cette partie-là. Et il ne faut pas les oublier, les jeunes, avec l'orientation scolaire. Donc là, c'est pareil, on cherche vraiment à avoir un réseau de proximité au plus proche.
Alors, vous bénéficiez sans doute de ce qui a été fait avec le CPF. On nous a dit en préparant cette émission que c'était plus compliqué de se connecter au CPF aujourd'hui, à son compte professionnel de formation, à cause d'un petit changement avec un login un petit peu plus complexe. Est-ce que vous pouvez nous résumer la situation? Est-ce qu'elle vous affecte?
Alors ça s'appelle France Connect Plus. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une bonne chose parce que c'est là pour lutter contre la fraude. Il y avait quand même un certain nombre de fraudes. Et donc ça permet de sécuriser le compte CPF de chacun et d'éviter d'aller consulter son compte et de se retrouver avec 0 € dessus. C'est toujours assez désagréable.
Mais c'est un peu la croix et la bannière pour s'authentifier avec France Connect Plus.
Alors nous, on a fait un tuto qui est disponible sur notre site. Si on suit bien la procédure, normalement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il suffit qu'on fasse une petite erreur ou qu'on ne fasse pas forcément le bon choix. Et parfois, ça peut être un petit peu un chemin difficile. Mais je parlais tout à l'heure de réseau de proximité. Nous, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est que si la personne elle a besoin d'être là pour l'aider, l'assister dans ses démarches.
Voilà, vous le disiez, proximité, ça implique d'être au plus près des gens. Vous êtes implanté dans plus de 450 villes. Oui. C'est quoi la plus petite ville où vous êtes présent?
Bon, la plus petite ville, je peux citer celle qui me vient à l'esprit, c'est Sablé-sur-Sarthe. Donc voilà, c'est une petite ville de 6500 habitants. La Flèche, qui n'est pas très loin non plus, qui fait dans les 4000 habitants. Donc voilà, on est présent. On n'est pas encore présent à Val-Thorens, mais pourquoi pas?
Peut-être à l'après cette émission. Bon, alors, si vous voulez aussi rejoindre Orientation, ça se passe sur le site orientation-du6groupe.com. Quel est le poste le plus compliqué à pourvoir en ce moment chez vous, Aymeric?
C'est les consultants en création d'entreprise, parce que la création d'entreprise, ça nécessite quand même une expertise assez particulière. Et nous, ce qu'on apprécie aussi chez un accompagnant, c'est qu'il ait déjà vécu lui-même une création d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est des profils spécifiques, c'est à la fois des gens qui ont déjà créé leur boîte, qui ont déjà eu un certain nombre de réussites dans ce domaine-là, et qui ont en même temps envie de mettre au service des autres leurs compétences. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on cherche cette double expertise.
On va continuer de faire le profil de vos entreprises. J'ai des questions du coup pour vous deux, pour Vincent Lalanne et Aymeric Le Breton. D'abord, est-ce que, une question pour vous Vincent, est-ce que Val Thorens a bénéficié du télétravail?
Alors, on est dans les métiers du tourisme. Donc les métiers du tourisme, c'est essentiellement des métiers d'accueil. Donc on a peu de télétravailleurs. Par contre, on a bénéficié de clients qui venaient faire du télétravail à Val Thorens. Et je pense que c'est une nouvelle façon de vivre. On a beaucoup de jeunes télétravailleurs en particulier, ou de gens qui sont dans des métiers indépendants, qui ont décidé de venir. Et on est d'ailleurs en train d'installer des équipements spécifiques pour ça. On a ouvert un nouveau centre qui s'appelle Le Board, où il y a des espaces de télétravail pour que des clients qui voudraient profiter à la fois de la montagne et de pouvoir travailler avec des bons réseaux puissent télétravailler.
Est-ce que ça a une implication sur le recrutement de saisonniers toute l'année ?
Alors, en ce qui nous concerne, bien évidemment, c'est-à-dire qu'une partie de nos... on est en train de tester un petit peu du télétravail, mais c'est vrai que le télétravail est quand même plus l'apanage de certains techniciens ou de certaines personnes qui travaillent chez nous sur les réseaux sociaux, en tant que de web designer ou autre. Effectivement, eux peuvent se permettre de le faire, pas au niveau de l'accueil, bien évidemment. Voilà.
Pour vous, Aymeric, une question qui concerne les profils que vous cherchez. Vous disiez que vous cherchez des gens pour conseiller sur une reconversion. Comment on trouve des gens qui se sont reconvertis pour venir former d'autres gens ?
Alors, comment on trouve des personnes, vous voulez dire, qui ont déjà vécu une reconversion et qui veulent à leur tour accompagner les...
Comment on les transforme en pédagogues, en fait ?
Eh bien, écoutez, ça passe par la formation. Et c'est vraiment ça qui a fait le succès d'Orient Action. C'est notre capacité à former. Donc nous, chaque personne en fait qui veut devenir consultant, c'est nous qui allons le former aux différentes méthodes et outils qu'il va utiliser. Bien sûr, il faut qu'il ait des savoir-être. Hein. Vincent en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, savoir écouter, avoir cette appétence aussi pour écouter, pour motiver, pour soutenir. Mais après, en fait, toute la compétence technique de l'accompagnement, c'est nous qui allons lui apporter.
Aujourd'hui, je vais vous poser une question à vous deux. Vous êtes à la tête respectivement de l'Office du tourisme de Val Thorens et d'une entreprise de formation. À quel âge vous prendrez votre retraite, Vincent ?
Je ne m'en suis pas vraiment préoccupé encore. parce que j'ai toujours considéré pour moi que le travail, ça fait partie de ma vie. Et que vivre en montagne, c'est déjà une belle récompense. Donc j'allais dire que je ne me pose pas encore la question, mais il va falloir que je me la pose, bien évidemment. Mais en tout cas, je ne compte pas partir, mettre les pieds au soleil. J'aime la montagne et je pense que je resterai en montagne.
Et vous, Aymeric ?
Ben moi, écoutez, déjà, le travail, pour moi, c'est fondamental. Parce que pour moi, ça représente la dimension altruiste des individus et moi j'aime cette dimension là et comme j'ai un travail qui me plaît en fait je pense que je ne m'arrêterai pas. J'ai eu un professeur qui avait 92 ans et qui m'enseignait encore, je m'en souviens très bien. Et donc
92
ans
ça va bientôt être illégal, hein.
Ouais, ça va bientôt être difficile.
Non, on
mais
pas.
Si j'ai la chance de d'être en bonne santé et de pouvoir continuer à travailler, je pense que je ne m'arrêterai pas ou très tard, par contre en réduisant bien sûr le rythme pour que ça soit plus compatible avec ma forme.
Allez, voilà. Encore une question pour vous deux. On a noté, Vincent, l'importance des réseaux sociaux autour de la marque Val Thorens. Vous avez plus de 200 000 followers, pas vous individuellement, mais on va dire la station sur Instagram. Quelle est la place du recrutement via les réseaux sociaux ?
Elle est extrêmement importante parce que ce qui est important, c'est l'interactivité dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire de répondre aux gens, de répondre en toute franchise et d'être le plus clair et le plus transparent possible. Et effectivement, Val Thorens a cette réputation et c'est un petit peu effectivement ce qui nous a servi aussi bien pour la clientèle que pour les saisonniers ou les employés qui travaillent à Val Thorens. C'est une vraie passion en fait. On a un métier de passion et les gens qui viennent nous accueillir, que l'on accueille, nous font souvent cette réflexion en disant ah, on voit que vous aimez vraiment votre métier, que vous aimez les gens. Et ça, c'est le meilleur souvenir qu'on peut avoir.
Et chez vous, Aymeric Le Breton, est-ce que les réseaux sociaux sont un levier de recrutement ? Est-ce que vous arrivez à caster, à recruter des personnes, notamment ces profils compliqués à trouver, là, on disait des gens qui reconvertis, qui peuvent derrière aller aider d'autres gens à se reconvertir ?
Oui, complètement, on l'utilise beaucoup, notamment LinkedIn. Soit voilà, on promeut, on essaie de montrer des consultants qui témoignent. Voilà, on fait beaucoup d'informations en fait, sur nos métiers pour essayer de donner envie. En fait. C'est ça qui compte, je pense. À partir du moment où on donne envie, si les gens décident de venir par eux-mêmes nous voir, déjà, il y a de l'engagement et il y a de la motivation, il y aura sans doute du plaisir.
Voilà, alors, On a fait le portrait de deux entreprises, de deux entités qui recrutent. Si vous voulez retrouver cette interview, vous la retrouvez d'ici quelques minutes en podcast, mais aussi en vidéo à la demande sur notre site. Et puis, dans quelques minutes, on va répondre à vos questions, parce que c'est le moment où on répond à vos questions. Restez avec nous, on s'arrête 30 secondes. À tout de suite. Ouais. On est toujours au cœur de la libre antenne de BFM Business avec vous. C'est l'heure de répondre à vos questions et on a un gros programme aujourd'hui. On va parler de vos droits à la vie privée quand vous travaillez, quand vous télétravaillez. Et notre experte ce midi, c'est Marie Contant. Bonjour Marie.
Bonjour Lorraine.
Marie, avocat associée au cabinet BG2V. Votre expertise, c'est le droit social, le droit du travail. Oui. On est en direct sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter et sur Facebook. Vous avez des questions, envoyez-les nous. On y répond, vous pouvez nous écrire directement dans le thread des différents réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On salue aussi ceux qui nous écoutent en podcast. Alors Marie, plein de questions très pratico-pratiques. Dans l'esprit, comment concrètement on fait pour séparer la vie privée et la vie pro lorsqu'on travaille de chez soi? Est-ce que l'avocat que vous êtes peut nous donner les règles applicables, notamment, je ne sais pas, en termes d'accès aux emails, d'accès aux agendas professionnels, d'accès à des documents? Qu'est-ce qui borde le travail et la vie privée?
Alors, le principe, c'est que justement, en télétravail, la frontière est beaucoup plus floue. Le télétravail, par définition, comme il se passe au domicile du salarié ou en tout cas en dehors de l'entreprise, par définition, il porte atteinte à la vie privée du salarié. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles un employeur ne peut pas imposer le télétravail à un salarié, qu'il lui faut l'accord du salarié. Alors après, les règles à respecter, en fait, le législateur s'est forcément penché sur la question. Et il a imposé aux entreprises qui décident de mettre en place le télétravail par voie de charte ou d'accord, ouais, de prévoir dans ces chartes ou dans ces accords les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être contacté. Donc normalement, si je ne veux pas être dérangée par mon employeur en permanence, je respecte les plages horaires qui sont fixées par la charte et par l'accord qui met en place le télétravail, de façon à avoir vraiment des plages horaires consacrées à ma vie privée et d'autres à la vie professionnelle. Le problème de ça, c'est que ça répond, c'est assez contradictoire en fait avec les aspirations des salariés en télétravail. Quand ouais, un salarié souhaite du télétravail, c'est justement pour avoir de la souplesse. Donc là, la difficulté, c'est que cette souplesse qui est l'aspiration des salariés, elle n'est pas tellement réconciliable avec une protection absolue de sa vie privée et pas tellement conforme à l'esprit de ce qui est prévu par le Code du travail.
On me pose une question pour ceux qui sont en coworking, donc en espace de travail protégé. Est-ce qu'il y a des règles qui se chevauchent entre ce qui se passe en télétravail et quand on travaille dans un tiers lieu, puisque c'est l'expression d'usage, oui, qu'on est en coworking dans un espace de travail partagé?
Alors, oui, il y a des règles à respecter. Et la première des règles, c'est qu'il faut s'assurer que l'employeur a autorisé le salarié à télétravailler en dehors de son domicile. En fait, dans la plupart des entreprises, donc, moi je suis avocat d'employeur, donc j'aide les employeurs souvent à rédiger des chartes. Et ce qui est prévu, c'est que le télétravail ne peut s'exercer que au domicile du salarié, éventuellement dans un deuxième lieu spécifiquement autorisé par l'employeur. Mais l'espace de coworking n'est pas systématiquement autorisé. Donc la première règle à respecter, c'est de vérifier que dans les règles en vigueur dans l'entreprise, je suis autorisée à travailler dans ce tiers-lieu.
Et c'est pas automatique. Est-ce que justement, côté employeur, puisque vous nous précisiez que vous êtes avocat plutôt des employeurs que des salariés, ça pose problème? Est-ce que vous avez des cas qui vous remontent, vous devez accompagner vos clients sur des problèmes par exemple de cybersécurité ou des problèmes de sécurité tout court de salariés qui sont partis travailler en coworking alors qu'ils n'avaient pas forcément l'autorisation?
Alors, j'ai pas encore eu de contentieux là-dessus. J'ai eu des contentieux où des salariés avaient véritablement manqué à des une prudence la plus élémentaire, c'est-à-dire que dans le train n'avait pas protégé son écran et du coup les gens voyaient son écran, ou un élu du personnel à qui on avait remis tous les informations utiles sur la stratégie de l'entreprise et qui les a imprimées sur l'imprimante de l'hôtel dans lequel il était. Voilà. Donc j'ai eu des cas comme ça où vraiment les salariés avaient manqué de manière assez, évidente et manifeste à leur obligation de prudence. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent dans les entreprises des chartes informatiques qui précisent les règles à respecter, donc il faut impérativement les regarder. Et il faut aussi savoir que dans beaucoup de contrats de travail, surtout pour les salariés qui ont accès à des données sensibles, il y a des clauses, des obligations de discrétion.
Et oui. Voilà. Il y a des obligations et il faut le rappeler. Petite question très concrète. En arrêt maladie, mon employeur suppose que je fais mes mails et considère que je dois les faire. Est-ce légal?
Non. Alors, non, très clairement, le principe, c'est que pendant l'arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n'a pas à travailler. Et d'ailleurs, c'est intéressant comme question parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme justement le salarié n'est pas censé et autorisé à travailler, l'employeur, lui, peut avoir accès à l'intégralité de la boîte mail du salarié. Le seul bémol à ça que j'ai déjà rencontré, c'est l'hypothèse d'un salarié qui est le seul à avoir une donnée très importante. J'avais eu le cas notamment parce que le salarié était le seul à avoir le code d'accès qui permettait se connecter et faire les déclarations URSSAF de l'entreprise. Donc là, le salarié est obligé, voilà, c'était dommage, le salarié est obligé de les donner, sans quoi il manquerait à son obligation de loyauté qui demeure, y compris quand le contrat de travail est suspendu.
Donc en arrêt maladie, on ne parle pas de droit à la déconnexion, c'est une autre catégorie qui s'applique, de législation qui s'applique. En revanche, quelques questions peut-être avant de conclure sur cette histoire de droit à la déconnexion. On en entend beaucoup parler de ce droit à la déconnexion. On sait que dans les grands groupes, c'est un petit peu plus structuré que dans les PME. Enfin, en tout cas, à vous lire, chers auditeurs, auditrices, c'est ce qu'on perçoit. Quels sont vos conseils pour faire respecter ce droit à la déconnexion? Je vous donne un chiffre, et j'en parle dans l'émission Happy Boulot de ce week-end, si vous voulez nous retrouver ce week-end sur ce sujet qui concerne la qualité de vie au travail. Il y a 10% des salariés qui seraient hyper connectés et qui sont en fatigue accrue. Donc, c'est un vrai sujet, cette déconnexion, ce droit à la déconnexion. Quels sont vos conseils, Marie, pour faire respecter le droit à la déconnexion?
Oui, ça c'est vraiment un sujet dont les employeurs se sont emparés et ils ont conscience que c'est important de faire respecter le droit à la déconnexion. Alors la difficulté qu'on a, c'est que aujourd'hui les salariés aspirent à beaucoup de souplesse. Ils aspirent à travailler pas forcément selon des horaires préétablis. Ils ont envie justement, pour mieux organiser leur vie privée, leur vie leur vie professionnelle, de pouvoir intercaler des temps de travail dans des plages normalement réservées à la vie privée. Et ça, c'est pas compatible avec le droit à la déconnexion. Donc, le conseil que je donne à mes clients et ce que je vois en pratique, c'est ce qui marche le mieux, c'est de prévoir des sensibilisations, des formations.
Ça marche.
Et il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Donc, c'est on met en place des modules d'e-learning pour sensibiliser les salariés et leurs managers à l'importance de respecter le droit à la déconnexion, parce que cette hyperconnectivité là dont vous parliez tout à l'heure, c'est un vrai désastre pour la santé. Et ça, je pense que les employeurs en sont conscients. Et aujourd'hui, quand un employeur voit un salarié qui est hyper connecté et vraiment trop connecté, c'est plus de l'inquiétude que ça suscite. Alors de l'inquiétude, c'est pas forcément philanthropique de la part d'un employeur, c'est surtout parce que sa responsabilité risque d'être engagée. Mais en tout cas, donc voilà, moi le conseil que je donne à mes clients, c'est faites un guide des bonnes pratiques et mettez en place, à côté de ça, une formation, une sensibilisation à l'importance de respecter ce droit à la déconnexion.
La formation, bah oui, parce qu'il y a des risques quand on est employeur et qu'on ne respecte pas le droit à la déconnexion. Bon, je pense évidemment aux risques financiers. La pire situation qui se passe, c'est quoi? Ça va être des dommages intérêts d'un salarié, par exemple, qui part en burn-out?
Oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des situations souvent dramatiques. C'est un salarié hyper connecté, malheureusement, peut finir par faire un burn-out. Donc, généralement, il va être en arrêt maladie pendant une longue période. Il va finir par être déclaré inapte. Et là, la responsabilité de l'employeur va pouvoir être engagée au titre de cette affection. Donc, il peut éventuellement faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Oui. Il peut solliciter des dommages et intérêts pour l'atteinte à sa santé. Et il peut également faire juger que la rupture du contrat de travail, qui est devenue inévitable quand on en arrive à cette extrémité-là, est imputable à l'employeur. Et donc demander des dommages et intérêts à l'employeur.
Marie, est-ce que vous percevez, je rappelle, vous êtes avocat en droit du travail, que depuis, disons, dans le sillage de la crise sanitaire, ces sujets qui étaient déjà en fait gravés dans notre droit, le droit à les déconnexions, ils datent de quand chez nous ?
2017.
Bon, donc pré-crise sanitaire, est-ce que vous trouvez que maintenant ils se sont sédimenter ces droits, qu'on en parle plus parce qu'en fait, le burn-out pour hyperconnectivité, l'hyperfatigue cognitive, c'est des choses qui aujourd'hui ont un coût pour les employeurs. Et donc du coup, est-ce que vous sentez qu'on le respecte plus, ce droit à la déconnexion ?
Alors, on en parlait déjà beaucoup avant la crise sanitaire. Après, le temps que les entreprises se dotent de la charte, notamment, ou d'accord sur le droit à la déconnexion, qui est cette prise de conscience, peut-être qu'on en parle un peu plus, mais c'est quand même pas récent.
Voilà, bon, pas récent, mais en tout cas, là, peut-être qu'avec les entretiens annuels, on fait le bilan de l'année 2022.
Alors oui,
ça tombe sur la table un peu plus.
Alors oui, et c'est d'autant plus que c'est pour tous les salariés en forfait jour, c'est une obligation. C'est-à-dire que dans le cadre des entretiens annuels, il faut impérativement que l'employeur interroge le salarié en forfait jour sur son équilibre vie privée, vie professionnelle, sur sa charge de travail et sur et du coup de ces questions-là découle le respect de son droit à la déconnexion.
Bon, bah si vous êtes salarié en forfait jour et que justement au menu de vos entretiens annuels vous avez cette question et que vous savez pas comment l'appréhender, écrivez-nous, on posera la question à un de nos experts ou de nos expertes comme Marie Contant, que je remercie. Hein. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à notre rafale de questions droit à la vie privée du salarié en entreprise. Je rappelle que vous êtes associée au cabinet BG2V et que avec vous évidemment on parle droit du travail. L'émission touche à sa fin, mais je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va faire demain. Demain, on va parler recrutement et billets de recrutement. On aura une experte qui viendra vous donner ses conseils justement pour changer peut-être votre manière de recruter, essayer d'enlever ces biais dont on parle, des biais d'âge, des biais de culture, des biais de recrutement aussi liés au parcours scolaire de vos candidats, de vos candidates. Ce sera très concret. Soyez avec nous, ça se passera en direct dès 13h sur LinkedIn, YouTube, Twitter et Facebook. Je vous précise qu'à partir de lundi, l'émission repasse à la radio et à la télé en direct. Alors, continuez à nous suivre en réseau, évidemment, sur les réseaux en direct, mais vous pourrez aussi nous retrouver à la radio et à la télé dès 13h puisque la chaîne sera maintenant aussi en direct à 13h. D'ici là, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr ou directement sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire ou sur les différents threads des directs sur lesquels vous nous suivez peut-être. On répond à vos questions tous les jours et puis toujours, si vous recrutez, venez nous raconter vos besoins de recrutement, nous parler de votre entreprise et de vos besoins pour continuer à pouvoir servir vos clients et à participer à l'économie. Merci à toute l'équipe et à demain.
BFM Business présente Lorraine Goumeau. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie.